un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au mois de février 1443 dans le sud-ouest de la France. Alors que le roi Charles VII prend ses quartiers d'hiver à Toulouse, la cour compte parmi ses membres une jeune femme sur laquelle le regard du roi se pose. Il fut, dit-on, ensorcelé dès le premier regard des ceux. Premier regard. Dans sa biographie de Charles VII, parue récemment aux éditions Perrin, Georges Minois écrit « On ne saurait nier l'importance d'Agnès Sorel dans la vie de Charles VII. Si son influence politique n'est pas évidente, son influence psychologique, elle, est indéniable. Passer donc sous silence Agnès Sorel serait occulter une part essentielle de la vie de Charles VII. » Fin de citation. Un jour dans l'histoire vous propose aujourd'hui de démêler et de comprendre le mythe de celle qui fut la première favorite qu'un roi de France ait osé introduire à la cour. Qui fut-elle réellement? Qui fut celle que l'on appelait à l'époque la dame de beauté, la belle Agnès? Que représenta-t-elle dans le jeu politique de l'époque? Influença-t-elle le roi? Autant de questions auxquelles Françoise Kermina va pouvoir nous répondre aujourd'hui. Françoise Kermina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, auteure de plusieurs ouvrages. Vous êtes spécialisée sur deux grands domaines particuliers que sont tout d'abord la Révolution,
oui,
mais aussi les femmes de pouvoir.
Oui, puisque j'ai écrit des ouvrages sur Marie de Médicis, Christine de Suède, Jeanne d'Albret, Jeanne de Chantal.
Vous avez publié deux ouvrages, Saint-Just, la Révolution aux mains d'un jeune homme,
paru mes premiers ouvrages.
Et également Les Derniers Charrettes de la Terreur, paru en 88.
Voilà, aussi, oui.
Et ces deux ouvrages ont remporté un prix de l'Académie française.
Mais l'Académie française a été très généreuse et bienveillante à mon égard, je la remercie.
Alors, vous venez de publier aux éditions Perrin une biographie d'Agnès Sorel, Agnès Sorel, la première favorite. Comment expliquer, Françoise Kermina, cette fascination pour ce qu'on peut appeler un mythe, le mythe d'Agnès Sorel?
Eh bien, d'abord parce qu'elle était la première favorite, ensuite parce qu'elle était d'une grande beauté, soulignée par tous les contemporains, même ceux qui ne l'aimaient pas. Ensuite, parce qu'elle a vécu très peu de temps, elle a vécu 28 ans, elle est morte à 28 ans, et elle a donc, sa faveur a duré peu, c'est-à-dire 6 ou 7 ans, et elle a laissé très peu de traces écrites, on n'a pas de documents écrits sur Agnès Sorel, seulement des témoignages, donc il reste un peu de mystère dans sa vie. Et surtout, les causes de sa mort ont été mal élucidées. Elle est morte très rapidement. On a parlé d'empoisonnement. Enfin, il y a une sorte de suspense, si vous voulez, dans la vie et la mort d'Agnès Sorel.
Peut-on en dire davantage sur les sources? Quel est l'état des sources aujourd'hui sur ce personnage? En histoire médiévale, généralement,
oui,
on a peu de sources.
Oui,
et là,
il y a très peu de sources écrites. Il y a des lettres, quelques lettres d'Agnès Sorel qui sont apocryphes, mais qui sont intéressantes parce que ces lettres montrent chez elle un caractère très généreux, très bon, très charitable. Alors, les faussaires qui ont écrit ces lettres ont insisté sur ce côté-là. Donc, il y avait peut-être une tradition orale du caractère d'Agnès Sorel qui, justement, bien qu'elle soit détestée parce qu'elle était une favorite scandaleuse, était très, très aumônière, comme on disait à cette époque-là. Elle a laissé beaucoup de bien à l'Église. Elle avait une influence dans ce domaine-là qui se traduit, justement, par ces lettres apocryphes. Et il y a une ou deux lettres qu'elle a signées et non pas écrites. Mais il y a beaucoup de témoignages quand même. Il y a des chroniqueurs, on en a beaucoup parlé, les chroniqueurs bourguignons. Les chroniqueurs bourguignons ont été d'ailleurs très, très malveillants avec elle, alors que les chroniqueurs français, par prudence, parce qu'ils écrivaient du temps pendant le règne de Charles VII, ont été au contraire beaucoup plus modérés dans leur jugement.
Et donc il est assez difficile d'écrire sur Agnès Sorel.
Ça dépend. Si vous écrivez uniquement la vie d'Agnès Sorel, vous avez une douzaine de pages. Mais si vous étudiez son siècle avec elle, alors à ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'elle est quand même emblématique des femmes de cette époque-là. À la fois par le luxe de son élégance, par sa façon de vivre.
Alors nous allons revenir sur cette époque naturellement. Commençons par le commencement.
Oui.
D'où vient Agnès Sorel?
Alors, Agnès Sorel vient du nord de la France, de Compiègne. Ses parents étaient de petite noblesse, mais ils avaient des charges de cour importantes. Donc, elle n'est pas du tout une fille du peuple, mais pas du tout. C'est une fille de petite noblesse. Et alors, elle avait été élevée, et c'est très important dans sa vie, à la cour du roi René, qu'on appelle le roi René, alors qu'il n'a jamais été roi, mais simplement duc d'Anjou, était un très grand mécène. Et alors, elle était suivante, enfin, dame d'honneur, Isabelle de Lorraine, la femme du roi René, qui était également une femme de grande culture et de grande élégance. Donc elle a vécu pendant 5 ans à cette cour-là et elle y a certainement tiré une personnalité très intéressante sur le plan culturel, artistique. Et c'est un élément positif qu'elle a pu apporter à la cour dans son influence sur la cour de Charles VII.
Est-ce que c'est une jeune fille d'exception? Est-ce qu'on peut la placer, j'allais dire, au-dessus de toutes les filles de son âge dans cette catégorie sociale?
Oui, on peut la placer dans la catégorie de jeune fille, de jeune femme très, très instruite. Très bien élevée, une éducation raffinée, comme on pouvait y en avoir, une éducation qui annonce celle de la Renaissance, si vous voulez, la femme de la Renaissance. Ça, certainement, elle avait des qualités personnelles. Alors, si on commence, si vous voulez, à voir pourquoi elle a séduit Charles VII, d'abord par sa beauté, c'est évident, mais aussi par ses qualités d'intelligence et que tous les témoins, et de charme de sa conversation. Les témoins insistent là-dessus. Elle avait une conversation charmante. Elle était facétieuse, très gaie. Elle était beaucoup plus jeune que Charles VII, puisqu'elle avait 18 ans et lui en avait 20 ans de plus. Charles VII était un homme très triste, très facilement déprimé, qui avait eu une jeunesse épouvantable. Elle l'a séduite certainement par sa beauté, bien entendu, mais elle l'a séduite une première fois par sa beauté, mais elle est restée en faveur parce qu'elle était très spirituelle, très drôle. Elle l'amusait beaucoup. Justement, c'est un des rôles qu'on peut attribuer, important qu'on peut attribuer à Agnès Sorel, c'est qu'elle a réveillé une cour qui était complètement endormie parce que Charles VII avait vécu dans une ambiance de guerre civile, de guerre étrangère. Et la cour de France n'avait aucun éclat, comparé surtout à la cour du duc de Bourgogne qui avait un éclat formidable, et à la cour aussi du roi René dont je vous parle, la cour d'Anjou. Alors elle a ranimé cette cour, c'est le rôle principal qu'on peut lui attribuer, parce que la reine était tout à fait effacée, la reine Marie d'Anjou.
Alors évidemment, on n'entre pas à la cour du roi par hasard, on doit naturellement pouvoir s'imposer, hein, vous utilisez le terme s'imposer, le verbe s'imposer, comment Agnès arrive-t-elle dans cette cour?
Eh bien, elle a été soutenue par le clan Angevin, à mon sens, parce que justement, les Angevins étaient les frères, enfin, la reine était une Angevine, c'était Marie d'Anjou. Elle était la sœur du roi René et du comte Charles d'Anjou. Et certainement, Charles Dumaine était un intrigant. Ils essayaient de conquérir le pouvoir aussi. D'ailleurs, ils l'ont eu. Et ils ont certainement, en voyant l'éblouissement qu'avait causé dans l'esprit, dans l'essence de Charles VII, la présence de cette femme-là, ils l'ont certainement manipulé. Pas manipulée, mais soutenue pour qu'elle ait un rôle à la cour, qu'elle ait un rôle de conseillère, un rôle permanent auprès du roi. C'était leur intérêt.
C'est-à-dire qu'il y a autour de Charles VII des conflits d'intérêts, des clans?
Bien entendu, il y a eu longtemps. Charles VII était un homme à favoris. Il a eu des favoris pendant toute sa jeunesse parce que c'était un caractère faible, irrésolu. Il était le fils d'un roi fou et d'une reine sinon folle, du moins une grande excentrique. Alors il y avait ses conseillers, enfin ceux qui le critiquaient appelaient ça son nonchaloir. C'est-à-dire qu'il tombait dans des phases dépressives très très dures. Et c'est ça dont l'a sorti d'ailleurs Jeanne d'Arc une première fois, pour le faire sacrer à Reims. Mais après Jeanne d'Arc, il retombait dans son apathie, il retombait sans arrêt dans son apathie. Par conséquent, il était la proie de conseillers. Il y a eu Georges de la Trémoille pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu la maison d'Anjou. Et alors après, il y a eu deux personnages que Agnès Sorel a soutenus de toute sa force, de toute l'influence qu'elle pouvait avoir. C'était Pierre de Brézé, qui était le premier ministre, qui était un homme très important, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan politique. C'est lui qui a aidé Charles VII à faire les réformes qui ont fondé la monarchie absolue, parce que c'est Charles VII qui a fondé la monarchie absolue avec l'armée permanente, l'impôt permanent, et Jacques Coeur. Alors Jacques Coeur, lui, a été l'artisan de la renaissance économique et commerciale du royaume, et ces deux personnages-là ont été soutenus absolument par Agnès Sorel.
Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur cet aspect,
oui,
naturellement.
Donc,
en fait, Agnès arrive à la cour, on a l'impression qu'elle est l'objet d'un parti, elle est propulsée par ce parti en juin.
C'est ça. Elle est propulsée là, oui.
Alors,
elle est immédiatement introduite au cœur du système, puisque elle faisait partie de la maison d'Isabelle de Lorraine, et Charles VII s'arrange pour qu'elle fasse partie de la maison de la reine, donc pour être continuellement en sa présence.
Il y avait, on peut le lire chez Georges Minois et dans votre livre, il y a un doute sur la rencontre, on ne sait pas exactement si c'est véritablement 1443 1463.
Oui, alors c'est ça, pendant longtemps, les historiens se sont ont discuté de ça. Certains pensaient qu'elle était plus âgée que ça, et que en fait, elle était depuis longtemps la maîtresse du roi, parce qu'ils voulaient absolument lui attribuer un rôle important dans la réconciliation entre le roi et le duc de Bourgogne, qui a eu lieu en 1435 et qui a été très importante, effectivement. Et alors, ils voulaient absolument qu'elle ait à ce moment-là l'influence. Mais c'est d'autres historiens qui disaient le contraire, bien entendu. Et les travaux récents dont nous parlions tout à l'heure, les travaux de je ne sais pas si nous en avons déjà parlé, enfin les travaux qui ont eu lieu à l'année dernière, enfin, une équipe de scientifiques qui sont occupés des restes d'Agnès Sorel ont prouvé qu'elle avait 18 à 22 ans quand elle a rencontré le roi. Ça. Donc son âge est certain maintenant.
Alors, son ascension est immédiate,
oui.
C'est-à-dire qu'à partir de 1443, elle entre
oui.
directement en contact du roi.
C'est ça. Alors, il y a immédiatement un scandale qui se produit, parce que d'abord, elle est dans la maison de la reine, elle est couverte d'or, elle est d'une élégance extrême, elle efface et éclipse complètement la reine, et surtout, le roi lui attribue des forteresses, des fiefs, il lui attribue pas n'importe quoi, il lui attribue des places de guerre très importantes. Il commence par le Beauté sur Marne, qui était le château de Charles V, où Charles V était mort, ça faisait partie du domaine royal. C'est une propriété royale qui lui attribue. Ensuite, il lui attribue Roquesaisière en Rouergue, il lui attribue Vernon plus tard à Anneville, Issoudun. Tous des forteresses, des fiefs qui ont été conquis par des capitaines sur les Anglais. Les capitaines sont Dunois ou bien le connétable de Richemont. Et au lieu de donner ces pièces qui ont été conquises par ces capitaines, il les donne à la femme qui partage son lit. Alors c'est un scandale, ça, pour l'opinion. C'est certainement un scandale.
Charles VII, à l'époque, est-il encore le petit roi de Bourges?
Non.
Ou bien commence à voir chez lui une transformation?
Absolument.
Avant l'arrivée d'Agnès Sorel.
C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. La métamorphose a eu lieu en 1435, à la réconciliation avec le duc de Bourgogne. Alors, à ce moment-là, tout a été très bien pour Charles VII. Le duc de Bourgogne n'a plus intrigué avec l'Angleterre. Il a été libre. Charles VII a été libre de ses mouvements. Et au moment où Agnès intervient dans sa vie, il n'y a plus que la Normandie et l'Aquitaine qui appartiennent aux Anglais. Le royaume a été presque entièrement reconquis.
Je reçois Françoise Kermina qui évoque le destin d'Agnès Sorel, la première favorite du roi. Elle vient de publier un ouvrage consacré à cette première favorite paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait.
Le parcours.
La rencontre.
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
Vous écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dicasse.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Françoise Kermina, historienne, spécialiste des femmes de pouvoir et de la Révolution française. Alors nous évoquons ce sort extraordinaire qui est celui d'Agnès Sorel, première favorite du roi, première favorite officielle auprès de Charles VII. Vous venez de publier, Françoise Kermina, une biographie d'Agnès Sorel parue aux éditions Perrin. Donc, nous avons vu cette ascension, venons-en au personnage lui-même, et je dirais à son apparence physique, car nous avons la chance d'avoir deux représentations, de plusieurs représentations d'Agnès Sorel, mais notamment une représentation très très médiatique, qui est cette fameuse Vierge à l'enfant, montrant un sein blanc peint par Jean Fouquet. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ce fameux tableau ?
Oui, alors Jean Fouquet n'était pas tellement bien vu de Charles VII, bien qu'il ait fait son portrait, mais Charles VII n'était pas du tout un artiste et un mécène, il a laissé un peu tomber. Jean Fouquet a été repris par Étienne Chevalier, qui était un des ministres de Charles VII, qui était un des proches d'Agnès Sorel, on a même pensé que c'était son amant, enfin il y a très peu de chances qu'il l'ait été, et Étienne Chevalier a été un des grands mécènes, il habitait dans la région de Melun, il a été un des grands mécènes de son temps. Alors donc il a financé Fouquet, qui a fait le portrait, c'était au moment de la mort de sa femme, de la femme d'Étienne Chevalier, il voulait mettre dans la cathédrale de Melun un triptyque où il était lui-même représenté, d'ailleurs il est représenté. On n'a pas ce triptyque ici, il est à Berlin. On n'a d'ailleurs pas non plus celui-là, il est à Anvers. Le diptyque a été dissocié. Et alors justement, ce qui a paru, ce qui me paraît toujours étonnant, moi encore maintenant, et ça nous paraît encore à nos contemporains étonnant, comment ça se fait que Étienne Chevalier a pu commanditer une œuvre où la favorite du roi était représentée en vierge. C'est assez curieux comme histoire, et c'est mystérieux. Il n'y a pas de réponse à ça.
Il n'y a pas de réponse à ça.
Non, il n'y a pas de réponse à ça. Non. C'est parce que peut-être, justement, Agnès Sorel était la femme emblématique de cette époque-là. D'ailleurs, le portrait le montre bien. Il y a toutes les modes du temps, ils sont. Le front très dégagé, la couronne. Alors, c'est un peu surprenant aussi que la Vierge soit représentée couverte de bijoux. Et on peut la comparer, cette Vierge, à celle de Memling. C'était à peu près une situation similaire, puisque le chancelier Rollin était un ministre aussi du duc de Bourgogne. Et alors là, c'est pas du tout. La Vierge est enveloppée dans un manteau qui la dissimule presque constamment. Alors, c'est une extravagance, ce portrait. Alors, il a été fait donc après la mort de Agnès Sorel. Et c'est un siècle après qu'on a pensé que c'était le portrait d'Agnès Sorel. On l'a pensé après, pas tout de suite. Et après, on a des répliques de ce portrait où l'enfant avait disparu. Le saint est toujours nu, mais l'enfant avait disparu.
Oui, vous reproduisez dans l'ouvrage une huile sur toile de l'école française du XVe siècle au château de Loches. Et vous représentez notamment les gisants
de Loches.
Qui visiblement sont assez fidèles sur la réalité
Et alors c'est comme ça que l'équipe de docteur Philippe Chalier, dont Charlie tout parlait tout à l'heure, a finalement authentifié ce portrait, parce que ses recherches sur les restes d'Agnès Sorel, on prouvait qu'elle avait, je vous passe les détails scientifiques, on prouvait qu'elle avait effectivement la peau extrêmement blanche, ce qui était une partie de son charme. Elle avait certainement une peau éblouissante, des grands yeux bleus, tout ça on peut le voir sur ses restes. Elle avait une chevelure extraordinaire, certainement très, très fournie, puisque les cheveux d'Agnès Sorel, il y a eu plusieurs exhumations d'Agnès Sorel, et à chaque fois, il y avait des fétichistes qui prenaient une partie de ses cheveux. Les cheveux d'Agnès Sorel, c'était une véritable relique, on en trouve un peu partout, peut-être des faux aussi. Mais ça prouve qu'elle avait une quantité de cheveux extraordinaire et qui a été constatée par les recherches scientifiques, et qu'elle avait des cheveux blonds. Ce qui fait un peu, si vous voulez, elle est l'ancêtre, enfin la première d'une série de favorites, et toutes les suiveuses ont été blondes aux yeux bleus, presque toutes. Madame de Montespan, Anne de Pisseleu, la favorite de François Ier, la Pompadour aussi. Il y avait une sorte de mythe de la favorite aux yeux bleus.
C'est vraiment ce qui ressort de votre
livre.
C'est vraiment ce qui ressort de votre livre, c'est que Agnès Sorel, c'est une sorte d'appel vers l'avenir pour les prochains
rois.
C'est
ce qui m'a intéressé, moi. Agnès Sorel était donc la première. Les rois avant Charles VII avaient eu des maîtresses, bien entendu. Et Charles VII lui-même en avait eu beaucoup. Plusieurs, tout au moins. Mais c'est la première fois qu'elle a été officiellement maîtresse du roi. Et donc, Charles VII a innové dans ce domaine-là, comme il a innové dans d'autres domaines. Et après, il y a eu des suiveuses jusqu'à Louis XVI. Louis XVI n'en a pas eu. Mais toutes. Et alors, c'était toujours le même schéma. La favorite vraie, intriguée pour approcher du roi, était soutenue par un clan politique puissant, il y avait une apothéose, il y avait ensuite des récriminations, des scandales, et à la fin, il y avait une fin très pieuse, une fin de pénitente. C'est le cas de presque toutes les favorites. Par exemple, Madame de Montespan a fini presque sainte, Madame de Pompadour a eu une fin très édifiante. Alors, il y a une sorte de schéma qui a été initié par Agnès Sorel et qui a perduré jusqu'à Louis XVI, qui n'a pas eu de favorite.
Dans votre propos, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a cette fameuse équipe du docteur Philippe Charlier qui a eu un rôle très important dans la reconnaissance physique d'Agnès Sorel. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur le rôle justement de cette science dans l'histoire, parce que c'est un apport extraordinaire et c'est un des piliers de votre ouvrage.
Oui, parce qu'on a pu déterminer par différents procédés, on a déterminé son âge, en particulier le cément dentaire, c'est-à-dire ce qui entoure la racine des dents, est d'une certaine dimension, d'une certaine importance au fur et à mesure que les gens vieillissent, ce qui fait ce qu'on a pu déterminer exactement son âge. On a pu déterminer justement la couleur de ses cheveux par l'analyse des cheveux. On a pu déterminer le nombre de ses grossesses par les dents, c'est assez curieux, par le cément dentaire qui à chaque grossesse avait une certaine dimension. Et surtout, alors là, ce qui a été le plus important de tout, pour l'histoire d'ailleurs, c'est la fin d'Agnès Sorel. Est-ce qu'elle a été empoisonnée ou pas? Ça, c'est important. Et ça, l'équipe, on verra tout à l'heure peut-être.
Oui. Alors, vous le disiez également, il y a eu ces nombreuses exhumations et c'est tout le début début de votre livre.
Oui, mais je trouve ça très amusant personnellement.
Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur elle a une vie, si je puis dire, après la mort.
D'abord, elle a eu une vie scandaleuse après la mort, parce qu'elle a eu deux tombeaux extraordinaires. Alors que à cette époque-là, c'était la mode. Ça commençait à être la mode des tombeaux, des monuments funéraires importants au point de vue architectural, mais c'était réservé aux rois, aux reines, un peu aux reines, mais surtout aux rois, aux ministres, aux grands capitaines, etc. Et alors donc, Charles VII, qui avait toujours eu la prétention de vouloir cacher sa liaison, d'en faire une histoire tout à fait normale, eh bien, quand elle est morte, il lui a fait ériger deux tombeaux superbes. L'un qui contenait son cœur à l'abbaye de Jumièges, où elle a été enterrée, et l'autre à Loches, où elle est morte. Alors, le tombeau avait une importance formidable dans l'église, et les chanoines s'incommodaient de cette présence, ça gênait les cérémonies. Alors il y a eu plusieurs démarches des chanoines auprès des souverains pour qu'on déplace le tombeau. Alors ce qui est amusant, parce que Louis XI, alors qu'il était ennemi avéré, il détestait la favorite, il n'a pas voulu du tout déplacer le tombeau, il a ordonné Louis XV pas davantage, et c'est sous le règne de Louis XVI que le tombeau a été ouvert. Et on a rassemblé les restes, on les a mis dans une urne, et on les a mis dans un coin du jardin du cimetière. Et alors après, continuellement, il y avait quelqu'un qui venait déterrer les restes pour voir s'ils étaient à l'abri, protégés, qui c'était, etc. Et à chaque fois, on prenait un peu de cheveux, des dents aussi, beaucoup. Les préfets impériaux aussi, il y a un préfet de Napoléon qui a essayé ça, etc. Jusqu'au jour où on a placé le cercueil dans le logis royal, je crois que c'était en 1970. D'ailleurs, c'est là que je l'ai vu, moi. Alors, et c'était une incongruité parce que le cercueil se trouvait dans un logis civil, enfin, dans un appartement civil, ce qui n'était pas du tout à sa place. Les conseillers d'Indre-et-Loire, enfin, récemment, en 2003, s'en sont inquiétés et ils ont voulu redimensionner le logis royal, donc débarrasser le logis de ce cercueil, de ce monument, et le replacer là où d'ailleurs elle voulait être inhumée dans la cathédrale. C'était son but, son désir. Elle avait donné beaucoup d'argent à cette cathédrale. Elle voulait être inhumée. Donc, elle a été solennellement réunie. Mais alors, c'est à ce moment-là qu'il a fallu d'abord, si on ouvrait le cercueil, s'assurer que c'était bien les restes d'Agnès Sorel et en profiter pour faire des recherches scientifiques intéressantes. C'est ce qu'il y a. Parce que la science en question, la paléopathologie, c'est une science assez récente. C'est la science qui consiste à examiner les restes humains découverts dans les fouilles archéologiques. Alors là, on avait une occasion de faire une recherche scientifique qui a été faite, qui a été menée et qui a eu des résultats très importants en ce qui concerne Agnès Sorel.
La science s'est intéressée à Agnès Sorel. Vous connaissez d'autres grands cas de personnages?
Je sais que le docteur Philippe Chaly s'intéresse à Louis XI aussi. Peut-être que ça aura une suite. Mais tout ça, c'est très récent. Hein.
Alors, revenons-en, si vous le voulez bien, Françoise Kermina, à la chronologie. Ce n'est pas Agnès qui fut la cause de la mue du roi, parce qu'il y a une mue du roi, mais la mue du roi qui permet l'arrivée d'Agnès Sorel.
Oui, exactement, c'est ça. Le roi a enfin pu être heureux, tout simplement. Heureux.
Alors, il y a une chose étonnante, et finalement, qu'on a du mal à comprendre, nous, avec nos yeux du XXe siècle, et c'est notre rôle d'historien de se retrouver à cette époque. Vous disiez tout à l'heure que Agnès donnait de l'argent à la cathédrale. Oui. Comment arrivait-on à l'époque à concilier tous les dons qu'elle pouvait faire aux œuvres religieuses et par ailleurs, cette vie qui finalement est une vie qui, au regard de l'Église, est une vie adultérine.
C'était tout l'art, si vous voulez, des pêcheurs, de gens qui pêchaient. Tout leur art, c'était justement d'entasser assez des garanties pour leur, enfin dans l'au-delà, si vous voulez. Et tout ça, c'était un processus qu'ils ont tous suivi, si vous voulez. Tous les rois, enfin ou les favorites qui ont été et qui ont péché continuellement, le péché d'adultère, elles le compensaient. C'était un blanchiment, si vous voulez, de l'accumulation de leur richesse. Elles le compensaient en œuvre pie.
Il y a la vie d'un futur pape dont j'ai oublié le nom, c'est Pie II, je crois, quelle était la vie de ce pape sur Agnès Sorel?
C'était plutôt un avis défavorable.
Oui, défavorable.
Il la considérait comme une grue, quoi, tout simplement.
Alors, elle entre dans l'entourage du roi et quasiment immédiatement, elle s'oppose au futur Louis XI.
C'est plutôt Louis XI, le jeune Louis XI, qui s'est opposé à elle. Vous savez, comme dans toutes les familles, si vous voyez votre père qui a une maîtresse, maîtresse, le fils n'aime pas ça. Enfin, c'est évident. Et après, puisque justement, ça m'amusait de voir un peu la suite, les suiveuses, ce que j'appelle les suiveuses, bah, c'est pareil. Les dauphins de Louis XIV et Louis XV détestaient les favorites. Enfin, en particulier le dauphin, le fils de Louis XV, détestait la, mais ils avaient la bouche cousue par le respect dû à leur père. Hein. Mais donc, il y a une animosité normale et naturelle du fils vis-à-vis de la maîtresse de son père. Et aussi, l'influence que, justement, le pape dont vous parlez, qui était à ce moment-là diplomate, enfin, il n'était pas encore pape, disait qu'elle participait au conseil. Le roi voulait toujours la voir avec elle, et en particulier au conseil. Ça me paraît, un conseil informel peut-être, mais ça me paraît quand même un peu gros que le Charles VII ait accueilli, enfin, ait intronisé sa maîtresse au conseil, je ne crois pas. Mais en tout cas, il était évident pour tous qu'elle avait une influence politique sur le roi, et Louis XI, qui était absolument taraudé par l'envie de régner, par l'envie d'avoir du pouvoir, ne pouvait pas supporter que cette femme en ait un.
Alors, vous la présentez en patriote. Il faut quand même, patriote, autant que l'on puisse utiliser un tel terme à cette époque. Est-ce qu'elle a, malgré tout, un dessein politique, notamment vis-à-vis des Anglais, hein, parce que nous sommes en pleine guerre de 100 ans.
Je crois qu'on a beaucoup grossi le rôle patriotique d'Agnès Sorel. Enfin, on en fait une Jeanne d'Arc laïque. Mais elle a eu un rôle qui a été un petit rôle, un rôle, et qui a été donné dans un récit autobiographique d'un des personnages de cette cour, Jean de Bueil, dont d'ailleurs le fils a épousé la fille d'Agnès Sorel. Donc il a voulu peut-être faire un coup de chapeau pour être agréable à sa belle-fille, un coup de chapeau à Agnès Sorel. Et il dit dans ses mémoires que justement, au moment de la reprise de la guerre, parce qu'il y avait, on parlait tout à l'heure de la date de rencontre entre Agnès Sorel et Charles VII, c'est au moment de la paix, la trêve avec les Anglais. Il y a une trêve très importante qui a eu lieu en 1444. Mais cette trêve, comme beaucoup de trêves, avait été continuellement violée par des incidents. Bref, la guerre allait reprendre en 1449. Et là, l'enjeu, c'était de conquérir la totalité du royaume, c'est-à-dire la Guyenne et la Normandie. Et le roi, toujours ce nonchaloir qu'on lui reprochait, cet abattement, cette irrésolution permanente, ne se décidait pas. Peut-être aussi par bonté pour son peuple, parce que les Français avaient beaucoup souffert de toutes ces guerres, ils ne voulaient pas les replonger dans un conflit dévastateur. Il hésitait. Et alors à ce moment-là, il y a une délégation, la scène est racontée par ce Jean de Bueil, qui est assez charmante. Les femmes de la cour arrivent, avec la reine aussi, et à leur tête, Agnès Sorel, qui cajole et enjôle Charles VII, en disant « mais si, il faut absolument que vous y mettiez, etc. » Et donc il s'y met, et c'est à ce moment-là qu'elle meurt d'ailleurs, c'est dans cette campagne. Il se décide enfin, mais enfin tout ça c'est assez romanesque. En fait, il s'est décidé à appuyer sur ses conseillers aussi, quand même, pas uniquement sur la vie d'Agnès Sorel quand même.
Je reçois Françoise Kermina, historienne, auteure d'une biographie d'Agnès Sorel, la première favorite du roi Charles VII, une biographie parue aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un petit instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Françoise Kermina, auteure d'une biographie d'Agnès Sorel, parue aux éditions Perrin. Alors, nous avons évoqué l'opposition entre Agnès et le futur Louis XI. Il y a un moment, une réconciliation, et vous racontez d'ailleurs l'anecdote. Le futur Louis XI offre à Agnès une série de tapisseries.
Oui, mais d'ailleurs, ça n'a pas dû lui faire tellement plaisir, parce qu'elle n'aimait pas Louis XI, peut-être pour une raison aussi plus ancienne, c'est qu'elle avait été amie de la dauphine, la première femme de Louis XI, qui avait été très maltraitée par son mari. Et on sent qu'il y a eu une sympathie entre ces deux femmes qui avaient le même âge, qui étaient toutes deux de jolies femmes, qui avaient les mêmes goûts. Et elle n'a jamais aimé le. Jamais. Alors, le dauphin qui voulait avoir une part du pouvoir se mit à penser enjôler Agnès Sorel en lui offrant ses tapisseries. Mais je pense que ça ne lui a pas tellement plu parce que on a, dans les comptes d'exécution testamentaire après sa mort, on a constaté qu'elle avait dissocié les tapisseries qui faisaient un ensemble et en mettant quelques-unes dans une résidence et quelques-unes dans. Donc elle a pas dû en profiter beaucoup. En tout cas, ça n'a pas du tout influencé pour réconcilier. Et là, c'est peut-être le tort qu'elle a... Enfin, ce qu'on peut reprocher à Agnès Sorel, c'est qu'elle a été le ferment d'une haine entre le père et le fils, certainement. Elle n'a pas mis du tout du sien pour que réconcilier les deux hommes. Et bien au contraire, elle a attisé leur hostilité au point que le dauphin a levé la main sur elle. On ne sait pas exactement s'il l'a giflé. Certains historiens disent qu'il l'a giflé. D'autres chroniqueurs disent qu'il l'a poursuivi de son épée. Mais enfin, c'est à peu près la même chose. Et à ce moment-là, Charles VII, furieux, a exilé son fils. Il a exilé son fils dans le Dauphiné, dont il était dauphin. Et Louis XI n'est revenu que 14 ans plus tard, roi de France. Donc Agnès Sorel est à la source, évidemment, d'une haine, enfin d'une brouille définitive entre le père et le fils, qui est quand même, au point de vue politique, très fâcheux.
Alors justement, venons-en à l'amour réciproque. Et d'abord, est-ce qu'il y avait un amour réciproque? Est-ce qu'Agnès Sorel aimait-elle véritablement?
Ça, je ne peux vraiment pas vous le dire. Et ce qui est certain, c'est que lui, il l'aimait beaucoup, elle l'adorait, et elle devait l'aimer aussi. D'abord, elle ne l'a pas trompé. On l'a dit qu'elle avait trompé avec Pierre de Boisset, avec Étienne Chevalier, dont je vous parlais tout à l'heure, mais rien ne le prouve. D'abord, sa faveur n'a pas beaucoup duré non plus. Et elle ne l'a pas trompé. Donc, il y avait certainement... Vous savez, Charles VII était très laid. Enfin, très laid, je ne sais pas. Enfin, c'est difficile de juger avec nos critères à nous. Il a passé pour laid. Mais il avait beaucoup de charme personnel. Il était très bienveillant, très majestueux, très élégant.
Très cultivé également.
Très cultivé. Et il avait, ce qui moi m'a frappé, parce que je trouve que ça peut être effectivement un élément de séduction chez un homme, il avait la voix très grave, une très belle voix, grave et subtile. Donc il avait en main la possibilité, il avait les atouts pour séduire une jeune fille, ça c'est certain. Ouais. Et ils ont vécu à peu près ensemble pendant 8 ans. Moi, je pense qu'elle avait certainement de l'affection pour lui, certainement. Oui. Mmh. Ils ont quand même eu 4 enfants aussi.
Alors voilà, ces 4 enfants, ce sont 3 filles,
le dernier, on sépare.
Voilà, et le dernier,
on a retrouvé justement l'analyse toxicologique dont je vous parlais tout à l'heure, enfin l'analyse des restes d'Agnès Sorel, a prouvé qu'il y avait un fœtus les traces d'un fœtus dans l'urne funéraire.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que Charles VII ne reconnaît ses enfants que bien après.
Il reconnaît uniquement l'aîné au moment de la mariée. Mmh. Et ce qu'il y a de plus paradoxal, c'est que c'est Louis XI Louis XI a été un très bon frère. Oui. Il a marié ses sœurs. Toujours, vous savez, les rois de France étaient des grands marieurs. Hein. C'était le péché mignon des rois de France. Alors lui, le roi de France, dans toute l'acception du terme, a marié il a marié ses filles pour justement juguler certaines familles dont il pouvait redouter la turbulence. Et il a marié ses enfants. Et il s'occupait beaucoup de ses sœurs et des enfants de ses sœurs. On a des lettres que cite d'ailleurs Jean Favier lui aussi dans son Louis XI. On a une lettre de Louis XI à la gouvernante des filles de ses sœurs en disant il faut qu'elles aient tel régime alimentaire, pas ceci, pas cela, du vin coupé, d'autres choses comme ça. Et il s'est beaucoup occupé de cette famille illégitime. Agnès Sorel ne pouvait pas supposer que ses fils seraient reconnus par le roi suivant qui, de son vivant, lui avait manifesté une telle hostilité. Paradoxe, ça, c'est assez drôle.
Alors, nous évoquions tout à l'heure le problème de cette favorite dans cette société très, très chrétienne. Comment le roi lui-même, comment arrive-t-il à concilier son état avec statut de roi très chrétien?
Mais par la dissimulation. Parce qu'il l'a officialisé, mais il n'a jamais dit « c'est ma maîtresse ». Au contraire. Alors, il avait une astuce assez misérable, à mon avis, assez confiante. Professeurs ou autres qui osaient lui reprocher timidement d'ailleurs cette faveur, il disait mais tous les rois ont un fou à leur cour et moi j'ai pas un fou mais j'ai une femme qui tient le rôle du bouffon et ça prouve d'ailleurs qu'elle le tenait évidemment par naissance mais aussi beaucoup par sa gaieté, par son esprit. Vous savez, c'était un peu la même chose d'ailleurs pour les maîtresses des rois suivants. Vous voyez, la Montespan avait un esprit d'enfer, hein. C'était une des raisons aussi. Parce qu'une fois qu'elle avait été élue par un roi, il fallait le divertir, il ne fallait jamais l'ennuyer. C'est ça le pivot de leur faveur, c'était ça, plutôt que leur beauté. Parce qu'il avait toujours une aussi belle et sinon plus belle qui pouvait arriver et rivaliser avec elle. Donc l'élément principal du succès, de la faveur d'une favorite, pour s'implanter à la cour, c'est de le distraire continuellement. C'est ce qu'a fait la Pompadour aussi, hein.
Il y avait une exclusivité, Agnès Sorel, ou bien Charles VII, tout en ayant cette favorite,
oui,
a pu aller vers
non,
ailleurs.
Il avait eu des maîtresses connues, d'ailleurs, toujours dans l'entourage de la reine, c'était plus facile. Et il semble qu'à la fin de la vie d'Agnès Sorel, il y a eu une rivale qui s'est pointée. C'était Antoinette de Méniellet, qui était la cousine d'Agnès Sorel. Et Agnès Sorel, qui était très bonne, comme je vous disais tout à l'heure, qui cherchait à faire plaisir, a voulu prendre cette cousine sous son aile pour lui assurer assurer un destin à la cour. Mais la cousine était ambitieuse et il est possible qu'elle ait séduit Charles VII du temps même de la vie d'Agnès Sorel et que ce soit la raison pour laquelle Agnès Sorel ait entrepris de la Touraine où elle attendait la naissance de son quatrième enfant un voyage exténuant en février pour rejoindre le roi à la guerre, enfin à la conquête de Normandie, parce qu'elle commençait à redouter la rivalité de cette femme-là. Et d'ailleurs, cette femme-là, effectivement, 3 mois après la mort d'Agnès Sorel, était la maîtresse officielle de Charles VII.
Oui, voilà. Oui, oui,
et ce qui est drôle dans cette histoire de cette favorite, c'est que c'est elle qui, c'est pas Charles VII qui l'a rejetée, c'est elle qui a rejeté Charles VII parce qu'un jour est arrivé à la cour le duc de Bretagne, qui était un homme très séduisant, connu pour son charme dans toute l'Europe, le plus bel homme d'Europe, qui a fauché la maîtresse de Charles VII. Et elle est partie en Bretagne où elle a une vie de favorite. Couverte d'or, etc. Toujours la même histoire, la rivalité avec la mère, avec la femme légitime, et voilà.
Alors justement, nous n'avons pas encore évoqué la reine. Comment réagissait la reine?
Eh bien,
parce que quand même, Charles VII a eu 12 enfants avec...
14.
14 enfants avec Marie.
Il en a eu quelques-uns du temps d'Agnès Sorel, attention.
Oui, oui.
Il n'a jamais abandonné le lit conjugal. Et à chaque fois qu'il... Parce que c'était un homme très généreux. Il offrait beaucoup de cadeaux, Charles VII, très libéral, et il lui offrait des magnifiques cadeaux à chaque naissance. Mais d'abord, elle n'était pas jolie. On n'a pas de portrait de Marie d'Anjou. On a simplement un buste qui est au Louvre, je crois. En tout cas, les Anglais, enfin les chroniqueurs bourguignons disaient qu'elle était d'une laideur à faire peur aux Anglais, ce qui est peut-être un peu exagéré. Mais enfin, elle n'était pas jolie, certainement. Elle était très effacée. Et en plus, elle était très, très triste parce qu'elle perdait, elle a eu beaucoup d'enfants, mais elle les perdait tous en bas âge, hein, comme beaucoup à cette époque-là. Mais elle était quand même... Et puis alors, c'était une vieille liaison, si vous voulez, avec son mari. Ils se connaissaient depuis l'âge de 10 ans, ils avaient été fiancés très longtemps. C'était plus une amie qu'une épouse. Et elle a, alors, on lui a reproché sa complaisance envers Agnès Sorel. On pensait qu'elle le faisait par intérêt. Mais c'est surtout parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. C'est un peu l'histoire de Marie Leczinska avec la Pompadour, disant, bah, puisqu'il en faut une, autant celle-là. Parce que justement, comme la Pompadour, Agnès Sorel a eu l'intelligence et la bonté d'être toujours dans les meilleurs rapports avec la reine. Jamais elle n'a eu une attitude d'arrogance avec la reine, au contraire. Elle lui a toujours présenté ses respects. Alors, la reine avait finalement ce qu'elle voulait. Elle était la reine, elle avait les hommages dus à sa souveraineté, les hommages dus à ses enfants, et elle acceptait ça comme un moindre mal.
Oui, vous dites, il y a deux types de favorites, les favorites insolentes, arrogantes,
oui.
D'autres plus habiles, sachant neutraliser
oui,
la reine
exactement.
Par des révérences.
Exactement.
Et Agnès fait partie de
voilà,
cette deuxième catégorie.
C'est une des raisons de sa faveur et une de ses qualités.
Alors, je reviens au rôle politique, car l'ouvrage d'ailleurs de Georges Minois consacré à Charles VII a accorde toute une période de la vie de Charles VII qu'il appelle la période Agnès Sorel-Jacques Cœur.
Voilà.
Et vous évoquiez tout à l'heure Brézé.
Oui, qui est important, autant voilà. Que si ce n'est plus que Jacques Cœur.
C'est
pense.
Un triumvirat.
Oui, exactement. Et elle a œuvré pour les soutenir, puisque après sa mort, ils se sont effondrés. Le Pierre de Brézé, qui était un ministre tout puissant, et n'a pas subi de disgrâce. Mais enfin, il était gouverneur de Rouen après la reconquête de Rouen. Il s'est surtout cantonné en Normandie. Et il a eu des rapports avec la reine d'Angleterre, enfin, qui était la fille du roi René, des rapports diplomatiques, peut-être importants. Mais enfin, il n'avait plus du tout la situation de prestige qu'il avait au temps d'Agnès Sorel. Quant à Jacques Cœur, alors là, il a été traîné en prison et il a subi un procès.
Donc vraiment, il y a une période politique correspondante.
Oui, c'est ça, et qui correspond à une très bonne gestion du royaume, si vous voulez. Alors, est-ce qu'Agnès Sorel les a soutenus parce qu'elle sentait que c'était l'intérêt du roi, ou alors par simple complaisance pour des hommes qui lui plaisaient? Jacques Cœur, en plus, la fournissait abondamment dans ce qu'elle aimait, c'est-à-dire les fourrures, les bijoux, etc. C'était un élément de son luxe, Jacques Cœur.
L'époque, vous en parlez beaucoup du luxe. Sorel, c'est un style, un luxe effréné, même si Agnès Sorel n'en est pas à l'origine.
Non, le luxe effréné, à mon sens, date de Charles VI. La cour de Charles VI, c'était un luxe décadent, enfin un luxe extraordinaire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L'habillement en témoigne. La reine Isabeau de Bavière était également... c'est elle, la reine Isabeau de Bavière, qui a initié ces N1 qui ont fait scandale. C'est elle qui a initié, qui a eu les premiers diamants. On dit toujours que c'est Agnès Sorel. Non, c'était Isabeau de Bavière. Mais après, il y avait eu un reflux, si vous voulez. Après, Charles VI devenant fou, la cour, surtout la guerre franco-anglaise, toutes ces ruines et ces malheurs ont fait que la cour de France est devenue très assoupie. Alors, elle, Agnès Sorel, a réveillé tout ça. Et alors, c'est un peu ce que les ministres de Charles VII lui reprochaient. Ils reprochaient justement qu'on retrouve ce luxe qui était déjà déplorable au temps de Charles VI et qui faisait perdre au royaume beaucoup de devises, parce que tout ce qu'on achetait, tout ce que Jacques Cœur achetait, c'était produit par l'étranger. des tissus, des bijoux, des fourrures, tout ça, ça venait de l'étranger. Et c'était une déperdition de la monnaie française, la monnaie qui venait de la culture, enfin qui aurait dû rester en France pour soutenir le trésor public, plutôt que de se perdre, se dilapider en superflu.
Le personnage du roi, vraiment, on le sent à la lecture de votre livre. J'allais dire, votre livre est un peu un miroir du livre de Georges Minois, et réciproquement, oui. Il y a vraiment une réhabilitation à faire,
oui,
du personnage,
oui,
Charles VII.
C'est un grand roi, c'est un très grand roi. Et ce qui lui a beaucoup nui, c'est Jeanne d'Arc. Enfin, Jeanne d'Arc lui a accompli l'exploit extraordinaire de le réveiller pour le faire sacrer à Reims, ce qui était capital. Ça, alors, c'est ce qu'elle a fait de mieux, Jeanne d'Arc. Parce que c'est comme ça que le duc de Bourgogne, finalement, a été obligé de se réconcilier avec Charles VII. Et puis, il y avait cette rumeur de bâtardise, enfin, de le traité de Troyes, qu'il l'avait déclaré inqualifiable. Alors, tout ça, ça a été restauré grâce à Jeanne d'Arc. Mais Charles VII a pâti, si vous voulez, du fait qu'il n'a pas soutenu Jeanne d'Arc. Enfin, ça... Alors après, il a
regretté, d'après vous,
ou... Non, mais je crois que le personnage de Jeanne d'Arc, c'est difficile à évaluer, parce que il y a tellement eu de, enfin, il y a tellement de géographie sur Jeanne d'Arc maintenant que émettre la moindre réserve sur son action, ça paraît sacrilège. Mais Jeanne d'Arc, elle n'a pas eu l'importance dans la vie de Charles VII. Je crois qu'il ne l'a pas, ressenti, si vous voulez, comme nous le ressentons avec le recul du temps. Elle l'a aidé, mais après, elle voulait soutenir une politique qui n'était pas celle du roi et de ses conseillers, et qui voulait absolument se réconcilier. La politique de Georges de la Trémoille, de Yolande d'Anjou, la belle-mère de Charles VII et de Charles VII lui-même, c'était d'arriver à se réconcilier avec le duc de Bourgogne pour éviter justement l'alliance entre le duc de Bourgogne. Et c'est effectivement ça qui a permis la reconquête du royaume. Mais ce n'était pas du tout les vues de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était anti-bourguignon, si vous voulez. D'ailleurs, elle a été prise par les bourguignons.
Alors, nous arrivons à la mort d'Agnès Sorel. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que nous ayons maintenant une certitude sur le fait qu'elle ait été empoisonnée. C'est ce que je vous propose de voir, Françoise Carmina, après une dernière pause.
Oui.
À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Agnès Sorel. Françoise Carmina, vous venez d'écrire une biographie sur ce personnage de l'histoire médiévale. Une biographie parue aux éditions Perrin. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'Agnès Sorel va à Jumièges, donc en Normandie, ceci pour préserver quelque peu son sort. Et elle n'y va pas dans de bonnes conditions, puisqu'à l'époque, visiblement, elle est enceinte de 7 mois.
C'est ça. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi elle y est allée. Ça paraît un peu extraordinaire et extravagant de sa part. Et certainement, ce n'était pas du tout avec l'accord de Charles VII qui a été surpris de l'avoir arrivé. Alors, elle a donné comme prétexte que elle avait eu vent, elle savait qu'il y avait un complot contre lui, on voulait l'enlever, etc. Et on a pensé aussi qu'elle trouvait injuste d'avoir incité Charles VII à reconquérir son royaume. Et comme cette reconquête était magnifique, enfin l'arrivée à Rouen, l'entrée à Rouen de Charles VII, c'est un spectacle splendide, elle aurait peut-être bien voulu en faire partie. Et en plus, troisième possibilité, elle craignait la concurrence de cette cousine dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, elle a commis cette folie d'arriver par un hiver forcément rigoureux, c'était au mois de janvier, je crois, et enceinte. Alors là, elle a été prise, elle est morte très rapidement, en une semaine, de ce qu'on a appelé, de ce que les commentateurs ont appelé un flux de ventre. Et effectivement, les travaux du docteur Philippe Charnier montrent qu'elle avait une maladie intestinale, un flux de ventre. Enfin. Et alors, donc, elle est morte dans cet accouchement avec cette maladie intestinale. Et les recherches, justement, de Philippe Charnier ont montré qu'elle avait dans ses restes une quantité très importante, mais même tout à fait importante, anormale de mercure. Alors, le mercure était employé depuis le Moyen-Âge comme remède dans les cas d'accouchement et dans les cas de maladies intestinales. Mais c'est la proportion du mercure qui a alerté ces scientifiques et d'après eux, ce n'est pas normal qu'elle ait pu, qu'on retrouve dans ses restes une telle quantité de mercure, ce qui indiquerait un empoisonnement parce que le mercure, ou le vif argent, comme on l'appelait à cette époque-là, était effectivement employé par les empoisonneurs. Alors, le problème, donc, il est évident qu'elle a eu, sinon un empoisonnement, du moins une intoxication très certaine, mais si c'est une main criminelle, on en reste aux hypothèses. Elle avait beaucoup d'ennemis, Agnès Sorel. Alors, on peut très bien penser que ça peut être tous ces grands capitaines qui avaient beaucoup œuvré pour la reconquête du royaume et qui se voyaient, comme je vous disais tout à l'heure, leur conquête lui était attribuée au lieu de l'être à eux, des hommes politiques qui étaient...
On accusait Jacques Cœur.
Oui, Jacques Cœur. Mais ça, c'est un peu spécial. Parce que Jacques Cœur était un homme très libéral. Il croyait assurer son pouvoir en jetant l'argent par les fenêtres et en donnant de l'argent à tout le monde. Ce qui était, au contraire, une erreur, parce qu'il avait énormément de débiteurs. Et un de ses débiteurs, ou un couple de ses débiteurs, a trouvé que c'était judicieux de le faire accuser pour qu'il condamné, comme ça, leur dette disparaîtrait avec lui. Mais alors, l'accusation contre Jacques Cœur a été examinée dans son procès, mais n'a pas été retenu parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Mais on peut penser que Charles VII a eu des doutes quand même parce qu'il voyait dans Jacques Cœur la main criminelle de son fils. Parce que Jacques Cœur et Louis XI, enfin le futur Louis XI, étaient très liés aussi. Alors c'était possible. Alors, mais Jacques Cœur lui-même, je vois pourquoi il était ami intime d'Agnès Sorel, il dépendait l'un de l'autre. Il n'y a pas de raison suffisante, vraiment. C'est très injuste cette accusation, c'est impossible. Alors l'accusation concernant Louis XI, moi, personnellement, je le défends dans la mesure de mes moyens parce que c'est assez mystérieux, il n'y a aucune preuve de rien. Mais on l'a accusé.
Il n'y a très clairement aucune preuve.
Oui, mais il y a des chroniqueurs du temps qui l'ont accusé expressément.
Oui.
Mais moi, je trouve que la preuve fondamentale, c'est que Louis XI a toujours dit, répété, que les rois de France n'étaient pas des empoisonneurs. Les rois de France, et lui-même d'ailleurs, étaient d'une cruauté intraitable. Il pouvait y avoir des assassinats, pas de Louis XI. Louis XI se débarrassait de ses ennemis par des procès au Parlement et des exécutions publiques. Mais il y a eu quand même, Charles VII a été accusé d'avoir fait assassiner par ses conseillers Jean sans peur, le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne a assassiné son cousin, le duc d'Orléans. Mais ce n'était pas des empoisonnements. L'empoisonnement était considéré comme quelque chose de les petites gens empoisonnaient. Et ce n'est que sous le règne de Catherine de Médicis a été soupçonnée d'empoisonnement, mais c'était la première fois. Enfin, les souverains n'étaient pas, parce que l'empoisonnement ça venait de, c'était les Italiens surtout, les médecins italiens qui étaient considérés comme des empoisonneurs. Alors moi je pense que Louis XI n'a pas, je ne peux pas avoir empoisonné Agnès Sorel.
On reste vraiment sur une interrogation. D'ailleurs, ce sont les dernières lignes.
Mais on attend comme maintenant la science marche de la main dans la main avec l'histoire. Moi, j'attends d'autres recherches historiques où on nous démontrera que Louis XI a fait assassiner Agnès Sorel.
Alors, je reviens tout de même sur la mort d'Agnès Sorel. C'est une mort très pieuse.
Bien sûr, mais comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le parcours systématique, c'est le parcours emblématique, plus exactement, mais aussi de beaucoup de gens de cette époque-là, de gens qui vivaient au maximum, qui prenaient la vie à pleine main et qui s'arrangeaient toujours pour, à la fin de leur vie, on voit ça très souvent dans les vies des hommes et des femmes de cette époque-là, et ils finissent tous dans des monastères.
Hein. Vous citez...
Les fins sont toujours édifiantes.
Oui. Vous citez tous les passages. Il y a une analogie avec Marie-Madeleine.
Ah oui, absolument, mais elle se prenait elle-même pour Marie-Madeleine.
Ouais.
Elle avait un culte pour Marie-Madeleine. Et Charles VII aussi, puisque à sa mort, il demande au prêtre qui se trouvait près de lui, quel est le saint aujourd'hui ? Marie-Madeleine. Ah ! Alors là, la pécheresse, là, c'était la repentie. Elle avait beaucoup de succès à cette époque-là. Elle était c'était une vedette, Marie-Madeleine. C'était une vedette. Mais Marie-Madeleine, c'est la sainte typique des favorites.
Alors, revenons sur cette postérité. Nous en avons parlé tout à l'heure.
Oui.
Que vont devenir les filles d'Agnès Sorel ?
Eh bien, les filles d'Agnès Sorel vont épouser, donc, sur l'ordre ou sur les conseils, enfin, les intrigues du roi, elles vont épouser justement des proches d'Agnès Sorel, Préjean de Coëtivy, de Jean de Bueil, et il y en a une qui épouse le fils de Pierre de Brézé, qui d'ailleurs été assassinée par lui. C'est une histoire assez rocambolesque aussi. Et cette Charlotte de Brézé donnera naissance dans la suite, en s'alliant avec Diane de Poitiers. Il se trouve que par le jeu des mariages, etc., Diane de Poitiers et Charlotte de Brézé sont les deux ancêtres de la dynastie de beaucoup de souverains d'Europe, et en particulier de Louis XV.
Eh bien, Françoise Kermina, c'est sur ces mots généalogiques que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Suis ravie, surtout.
Je renvoie nos auditeurs à votre livre, Agnès Sorel, La Première Favorite, parue aux éditions Perrin. Merci Françoise Kermina et à très bientôt.